Et bonsoir, c'est Onde Noire sur Agora Côte d'Azur, Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
On a le très grand plaisir de recevoir Cédric Fabre. Cédric, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre. Vous allez nous parler de votre dernier roman sorti qui s'appelle La Folle Cavale de Florida Meyers. Juste avant, allez, deux mots de présentation, de biographie, journaliste indépendant. Et si je dis que littérature et rock sont vos thèmes de prédilection, je ne me trompe pas?
Oui, ben bonsoir tout le monde. Oui, moi je vis et je travaille à Marseille. J'ai travaillé donc pendant des années. Je continue pour la presse sur les littératures de genre, le polar et la science-fiction. Et pour la presse rock, donc oui, moi je fais toujours un lien entre les deux, sur les contre-cultures.
Nous aussi. La voilà. Folle Cavale de Florida Meyers, c'est votre sixième roman sorti aux éditions Plomb, dans la collection 109, et il est sorti en octobre 2018. Le personnage pivot, me semble-t-il, c'est un avocat, il s'appelle Guizot. Il s'envole dès les premières pages. Et il s'envole pour retomber assez lourdement au pied de la falaise. Donc le personnage pivot est mort dès le début. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas du tout chercher si quelqu'un l'a tué ou s'il y a quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire la rencontre de tas de personnages autour. Le premier, ce livre s'appelle La Folle Cavale de Florida, c'est la rencontre de Florida, qui était sa maîtresse. Et petit à petit, vous allez nous dévoiler, vous allez nous tricoter un très beau portrait de femme. Vous pouvez nous présenter un petit peu Florida ?
Oui. Oui, c'est vrai que c'est le personnage principal, le personnage pivot dont vous parliez, l'avocat Guizot, qui est l'amant de Florida, effectivement, est un personnage qui hante le roman. C'est lui qui détient toutes les clés, mais il est mort. Voilà, c'est tout le problème. Florida, elle, c'est une femme qui est... qui cache beaucoup de secrets, comme souvent dans le polar, et qui essaye en fait de s'arranger avec tous les mensonges qu'elle a prodigués, tous les mensonges qu'elle a fait au cours de sa vie, tous les mensonges qu'elle s'est faites à elle. C'est une réalisatrice de documentaires qui a travaillé sur un documentaire sur les SDF et qui voit un peu le monde à travers ce prisme de gens qui ont vécu dans l'ombre, qui ont vécu dans la rue, de gens qui en fait dont on ne sait pas grand-chose. Qui cachent des choses, mais aussi parce qu'on va pas s'intéresser à eux. Donc tout ça est basé sur une vie de mensonges. Et le roman, c'est un peu comme le polar, on arrive à trouver qui est l'assassin à la fin, souvent, parfois. Là, c'est sa quête à elle, c'est comment à un moment donné la vérité va sur ce qu'elle est, sur comment elle doit mener son existence finalement, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle c'est un niveau de révélation en fait.
Oui, il y a plusieurs.
C'est de se mentir à soi-même en fait.
Et déjà dans la présentation, enfin au début, à un moment donné, donc elle rencontre un promeneur, un randonneur, et elle se présente comme ça. Et je trouve que dans le court texte que je vais lire, il y a beaucoup d'ambiguïté parce qu'on pourrait la penser un peu bimbo déjà, juste le nom de Florida. Et puis on sent la causticité, on sent l'œil vif. Donc extrait. Oui, ma mère, c'est Maheu qui lui demande, l'autre personnage qui lui demande, mais pourquoi Florida ? Oui, ma mère aurait voulu vivre à Miami, c'était son rêve depuis qu'elle était gamine. Sa mère était d'origine cubaine, d'une famille bourgeoise anticastriste, qui était pourtant installée en France depuis les années 60. Elle voulait renouer avec sa communauté, soi-disant installée à Miami. Mais le boulot de mon père, à l'époque, les a empêchés de partir. Elle est tombée enceinte, je suis née, alors je suis devenue sa Floride. C'était une idée stupide, mais c'était une femme stupide. Elle est morte, enterrée au cimetière de Saint-Ouen. On ne meurt jamais là où on devrait, n'est-ce pas ? Bon, que faisons-nous ? Et que vont-ils faire ? Donc, en gros, nous sommes dans les gorges du Verdon. L'avocat vient de défunter. Florida a le cadavre de son amant. Elle rencontre un randonneur. Que décide-t-il de faire ?
Alors l'idée c'est un road story, donc c'est des personnages qui doivent se rendre d'un point A à un point B, sauf que avec toutes les contrariétés du voyage, de la vie, etc. Ils vont pas, les choses vont pas se passer comme prévu. Son obsession, c'est sa détermination, c'est presque à la limite de l'obsession. Moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est quoi une obsession finalement. c'est d'amener le corps de Guizot chez lui, dans sa famille, en faisant croire qu'il est tombé du toit, en réparant un toit. En fait, elle veut préserver la réputation de la famille. Guizot était un avocat important, connu, reconnu, c'était une personne estimée. Elle veut pas que tout ça soit entaché par une histoire d'adultère. Or, elle était, elle, la maîtresse. Sauf que la femme de Guizot était aussi sa meilleure amie à elle, Florida. Bref, c'est souvent comme ça. Et donc,
ah ça, je ne sais pas. J'en parlerai à mon compagnon, mais...
voilà, c'est exactement... Le polar man a toujours à plein de problèmes, donc allons-y. mais l'idée, voilà, c'est pour elle, c'est vraiment une obsession de ramener ce corps qui est donc dans un canoë, sur une remorque, derrière sa Triumph TR4, et elle doit l'amener des gorges du Verdon à Aix-en-Provence. C'est pas très loin, on traverse le plateau de Valensol. Sauf que en prenant un randonneur et puis un stopper, etc., c'est un engrenage en fait, un enchaînement de situations où rien n'était prévu, où les choses déjà au départ ne sont pas à leur place, ne devraient pas être telles qu'elles sont, parce qu'il y a eu trop de mensonges, trop de cachotteries. Et donc, de fil en aiguille, arrive, enfin l'histoire déboule.
On va jeter un poil pudique sur tout ce qui va arriver par la suite, parce que il y a cette folle histoire, je dirais presque avec beaucoup de dérision, avec de l'humour, et puis il y a le contexte, et puis il y a d'autres personnages qui tournaient autour de Guizot. Alors le contexte d'abord, ce contexte particulier, parce que s'ils vont avoir tant de péripéties, c'est parce que vous situez le roman, on va dire dans, c'est pas vraiment quand d'ailleurs, ça pourrait être en 2000, ça pourrait être en 2010, ça pourrait être même en 1990. C'est dans un contexte particulier. Des gens se lèvent, des gens manifestent, de multiples manières. Et il y a une sorte de rassemblement des mécontents. Ça nous rappelle quelque chose. Tiens, en première question, vous l'avez écrit quand, ce roman ?
Eh bien, je l'ai écrit donc il y a à peu près il y a un an, à peu près. Enfin, je l'ai terminé il y a un an. Il est sorti en octobre 2018. Effectivement, c'est un contexte d'émeute et d'insurrection nationale, avec des foyers d'émeute, des blocages, des occupations d'usines, quelque chose d'inédit. C'était à l'époque un peu, ça ressemblait un peu à de la science-fiction, puisque je racontais quelque chose d'inédit.
C'est ça.
Et puis il sort en octobre, effectivement, en novembre, il y avait les gilets jaunes. Donc moi je me basais surtout sur toutes les manifs contre les lois de travail. Donc j'avais beaucoup participé à ces manifs, donc je me disais, il y a quelque chose qui va péter à un moment donné, on ne va pas s'en tenir à ces manifs et à ces défilés pacifiques, il y a quelque chose de plus grave qui va arriver. Et donc c'est pas de la préscience, c'est simplement quand on écrit, on cherche à visualiser quelque chose qui pourrait arriver, on travaille à ça, on cherche, on met en perspective. Donc le fait que ce soit arrivé, c'est pas... Je veux dire, je suis pas devin, quoi. Voilà ce que je veux dire.
Mais vous travaillez dans le roman noir, qui est quand même un œil de la société actuelle assez pointu en général.
Voilà, mais on devine pas. On a ce contexte social qui est très important. En tout cas, pour moi, il est important. C'est pas un thriller psychologique. C'est vraiment le fait social et le fait que le destin d'un individu. Être en interaction avec la société et le fait social, c'est ce qui va aussi déterminer sa propre trajectoire, sa propre histoire, son propre destin de personnage romanesque. Donc oui, le contexte social est très important, ouais.
Et dans ce contexte social, il y a un autre personnage qui est un petit peu, parce que Florida, elle est un peu jusqu'au boutiste, elle est déterminée à aller jusqu'au bout de son idée et de sa trajectoire. Il y en a un autre, c'est Franck Matta. Un drôle de syndicaliste, lui, qui a comme arme une guitare électrique et quelques distorsions.
Voilà, enfin,
Tout au moins, il n'a pas que ça. Mais entre autres, il pense qu'il peut faire bouger les choses grâce à cela.
Oui, dans la pure tradition du protest song américain et de la contre-culture américaine, l'idée quand même qu'à un moment donné, la contre-culture, elle a une bande son, c'est le rock'n'roll, que les grands rockers des américains des années 70 ou les rockers punk anglais comme les Clash allaient à un moment donné, il s'agissait d'investir le champ politique et de venir faire du tapage là-dedans, voire du happening. et puisque le punk c'est un peu un grand cirque, c'est un peu un happening, avec une guitare et un public, avec toute cette énergie rock'n'roll, on peut galvaniser des foules. Le fait que ce personnage soit un syndicaliste avec une guitare, ce qui a été un peu Woody Guthrie aux États-Unis, l'idée était ça pouvait rameuter du monde, ça pouvait rendre finalement le syndicalisme un peu plus sexy, un peu plus un peu plus furibond aussi.
Eh bien, justement, alors moi, le personnage de Franck Matta, il nous a fait penser aussi à ceux qui ont créé le groupe Berrurier Noir, qui travaillait comme ouvrier dans la journée et qui aidait des manifs, qui ont beaucoup participé le soir avec leur guitare et leur voix. François, j'avoue que je me souviens plus des prénoms.
François Laurent.
Voilà, donc Franck Matta, ça fait un petit peu penser à ce groupe-là qui n'est plus. Enfin, heureusement, ils sont toujours vivants, mais on les entend beaucoup moins. Donc, ça va être notre partie musicale. Cédric, merci beaucoup. On va donc écouter Berrurier Noir. Et on rappelle le titre de ce très joli roman, La folle cavale de Florida Meyers, collection 109 aux éditions Plomb. Merci beaucoup Cédric, on laisse la place au Berrurier Noir.
Et le morceau s'appelle Salut à toi.
Au revoir.
Salut à vous tous, merci.
Voilà, c'était Berrurier Noir et ce morceau « Salut à toi ». Jacques, tu nous emmènes en Italie maintenant.
Oui, dans le sud de l'Italie, avec un roman de Maurizio Di Giovanni qui s'appelle « L'enfer du commissaire Ricciardi », qui est paru aux éditions Rivage et traduit par sa traductrice habituelle, Odile Rousseau. Alors après avoir promené son commissaire pendant 4 saisons, donc je ne voulais pas vous le dire, vous le savez, puis à Noël et à Pâques, dans la Naples des années 30, celle du Novecento et du fascisme, Maurizio Di Giovanni, donc, qui est l'auteur de ce roman, nous amène avec cette nouvelle enquête dans l'enfer personnel de Ricciardi. Le roman s'appelle L'enfer du commissaire Ricciardi. Mais aussi dans l'enfer qu'est Naples, partant de canicule. Une canicule que l'auteur appelle simplement la chaleur. Mais quelle chaleur? Juste quelques lignes. La chaleur, la vraie chaleur, ne survient pas à l'improviste. Elle a ses repères fixes et se meut comme une flotte militaire paradant sur la mer. Elle se fait annoncer par quelques nuages et même parfois par une ondée soudaine, juste pour tromper son monde et faire diversion avant l'attaque décisive. Les chiens reniflent l'air, certains émettent un jappement inquiet, les vieux soupirent. Une nuit survient qui, contrairement à l'habitude, n'apporte pas le rafraîchissement souhaité, et c'est là le signal. Les hommes tournent dans leur maison en cherchant vainement à ouvrir les fenêtres qui permettront à l'air de circuler. Les jeunes mères surveillent le sommeil de leurs bébés, incapables de libérer leur esprit des histoires de nourrissons retrouvés morts à l'aube dans leur berceau. Quelques lignes plus loin, la chaleur, la vraie chaleur, ne dure que quelques jours, mais durant ces jours-là, l'atmosphère change et la ville devient un autre lieu. Elle a le goût de la glace, l'odeur de la mer, mais elle peut aussi avoir la couleur sombre de la mort. La chaleur, la vraie chaleur, vient de l'enfer. Mais en fait, le titre aurait pu être « Les enfers du commissaire Ricciardi », car en plus de la chaleur, Luigi Alfredo Ricciardi doit subir, impuissant, l'absence, le départ de la femme qu'il aime secrètement, sa belle voisine Enrica, mais aussi la maladie de sa vieille tante, Rosa, celle qui s'occupe de lui depuis toujours. Bon, bien sûr, il va mener une enquête, car il est flic de roman policier. Donc, une enquête pour laquelle il recevra l'aide de son adjoint, le brigadier Mayone, et le soutien et les bons conseils du médecin légiste, El Dottore Modo. Le professeur Tullio Iovine del Castellio, un fameux chirurgien titulaire de la chaire de gynécologie de l'hôpital de l'université, est retrouvé étalé par terre, défenestré depuis son bureau du quatrième étage. Le suicide est peu probable. Le commissaire va galérer, osons le mot, plus que d'habitude. Il aura affaire plutôt à beaucoup de roublardises, de cynisme, et aussi à beaucoup d'amour, mais des amours déçus, des amours détruits et donc destructeurs. Maurizio Di Giovanni utilise une triple narration pour ce roman. Le récit de l'enquête par le commissaire, normal. À côté, les lettres d'Enrica qui raconte ses doutes, son cœur brisé à son père. Et tout au long du livre, en parallèle au récit, un autre récit, celui des amours naissants de deux jeunes adolescents qui rêvent devant les paquebots qui quittent le port pour la lointaine et pleine de rêves Amérique. Tout cela au début du siècle, au début du XXe siècle, donc 20 ans avant les années 30. Des magnifiques pages qui racontent la vie du petit peuple napolitain, souvent miséreux, et qui n'ont pour tout espoir que de partir. Quant à Riccardi, pris dans sa propre affliction, il ne se résout pas à affronter encore et encore les pires tourments de l'âme humaine. Surtout que les fascistes sont toujours là aux aguets. Un peu comme avec Camilleri, on se dit à chaque nouveau roman de Di Giovanni, on va se lasser, mais non, le charme opère à chaque fois. On suit chacun des personnages qui nous sont devenus familiers, la petite famille du brigadier, et aussi sa belle indique, la trans Bambinella, la riche romaine Livia qui cherche à attirer Riccardi dans ses rées, la veulerie du commissaire-chef Garzo, les mauvaises humeurs du légiste, puis il y a Naples, ses petites rues, ses odeurs, les mauvaises, celles de la crasse, la misère, les égouts, auxquels se mêlent les bonnes, les fleurs, les effluves, des vendeurs ambulants de pizza, de la pâtisserie, le parfum iodé de la brise de mer, dont on attend quelques espoirs de fraîcheur. Un grand cru, donc, avec l'été qui arrive, on sera dans la même ambiance chaude que les protagonistes de Di Giovanni. En plus, on a la chance, il en reste au moins 5 à traduire.
Voilà, on se retrouve dans la deuxième partie d'émission.